C'est l'heure du journal d'Estelle Schmitt. Bonjour Estelle.
Bonjour. Composé avec le virus partout dans le monde, des célébrations encadrées pour la fin du Ramadan. Aujourd'hui, le Conseil français du culte musulman appelle à ne pas se rendre dans les mosquées pour la prière, pour ne pas risquer de faire apparaître un foyer épidémique. La prudence toujours en ce long week-end d'ascension, mais la vie démocratique reprend. Élection hier de maire, dont la liste est passée dès le premier tour des municipales. Masque sur le nez, geste barrière, mais élection tout de même, soulagement palpable. Près de 2 semaines maintenant depuis le début du déconfinement, et comment allons-nous? Le moral des Français analyse sur Inter à partir de 8h20, Eric.
Oui, le moral des Français et également leur confiance, leur degré de confiance envers la classe politique. On en parle avec deux invités, Anne Muxel, directrice de recherche au CNRS et au CEVIPOF, et Édouard Le Cerf, le directeur général adjoint de l'Institut BVA. Et vos questions au 01 45 24 7000, j'ai failli oublier.
Dans l'actu ce dimanche également, un procès qui pourrait durer des années. Benjamin Netanyahou comparé à partir d'aujourd'hui à Jérusalem. Plusieurs affaires de corruption. Premier chef de gouvernement israélien en exercice à se retrouver devant la justice. Le déconfinement et ses nouvelles règles de vie. Port du masque obligatoire dans certains marchés couverts. On le verra à Belfort. Les rendez-vous du printemps qui vont reprendre, pas toujours les plus joyeux d'ailleurs. Réunion de copro désormais autorisée en visioconférence. Ambiance tendue garantie. Ambiance particulière également dans une propriété privée, celle de Julia Deck, dont son roman qui concourt pour le livre Inter rencontre. Et puis baignade dans une eau à 13 degrés avec des nageurs de Brest qui reprennent l'entraînement, mais en mer pour le moment.
France Inter.
La fête est d'ordinaire synonyme pour les musulmans de grandes visites familiales et amicales, de prières à la mosquée. Ambiance forcément particulière par temps de coronavirus pour l'Aïd et Al-Fitr aujourd'hui qui marque la fin du mois de jeûne du Ramadan. En France, hier, le gouvernement a levé l'interdiction de réunion dans les lieux de culte. Pour autant, le Conseil français du culte musulman a appelé les mosquées à rester fermées. Emmanuel Grabé a rencontré des fidèles dans le quartier de Belleville à Paris, entre déception et compréhension.
Malgré l'autorisation du gouvernement, la mosquée de Mimoun n'ouvrira pas ce soir. Ses responsables n'ont pas le temps d'organiser la venue des fidèles en toute sécurité. Pour la première fois de sa vie, il priera chez lui pour marquer la fin du Ramadan.
Quand on fait la prière à la mosquée, c'est une autre ambiance. On rencontre des gens, on se salit, on est content. Confinement, ça change, on visite pas la famille, on reste à la maison.
Une célébration à quatre, sans invités, ça aussi c'est inédit. Et ce sera le cas dans de nombreuses familles si on en croit le chiffre d'affaires d'Assad. Ce pâtissier est débordé en temps normal pour l'Aïd, particulièrement triste de la situation.
Il n'y a pas de bisous, il n'y a pas de câlins. Tout le monde, ils ont peur. Les gens ont l'habitude de commander. Cette année, il n'y a pas trop de commandes. Il n'y a pas de sous pour acheter de pâtisserie, pour acheter de cadeaux, parce que les gens n'ont pas travaillé.
Pendant tout le confinement, Aïcha a été à son poste de caissière.
Vous avez vu, je fais plein de courses.
Hors de question pour elle de ne pas fêter l'Aïd, d'autant que c'est la première fois qu'elle peut recevoir ses proches chez elle.
J'ai prévu de faire du tchep, du mafé. Et du Saga Saga. Et j'ai invité plein d'amis et la famille. On aura le masque, on sera protégés. Mais par contre, les enfants ne resteront pas avec nous pour mesure de sécurité.
Elle a trop peur de les contaminer et espère pouvoir les accueillir pour l'Aïd El-Kébir dans 2 mois.
Un reportage signé Emmanuel Grabé. Les autorités juives sur la même ligne que les autorités musulmanes. Les synagogues restent fermées, contrairement aux églises qui rouvrent ce week-end, messe dominicale avec distanciation sociale et gel hydroalcoolique. Retour très progressif à la normale et ses appels toujours à la prudence des médecins ce long week-end d'ascension. Même si le nombre de malades hospitalisés en réanimation en France poursuit sa baisse, 36 de moins en 24 heures, 1665 patients en tout, pas de nouveau bilan de la mortalité pour cause de pont. Et un nouveau foyer identifié dans la Vienne. 23 cas de Covid-19 au site hospitalier de Loudun, dont 13 parmi le personnel.
Un week-end marqué également par l'investiture de maire.
Oui, ce dont la liste a été élue dès le premier tour, le 15 mars dernier. Première réunion de conseils municipaux hier et élection du maire. Là aussi dans des conditions sanitaires très particulières. Stéphane Escoc a assisté à l'élection du maire de Saint-Macaire. C'est en Gironde. 20 personnes dans la salle des fêtes, pas plus.
Comme le veut la tradition, c'est la doyenne du conseil qui procède à l'élection et qui prononce les résultats.
15 voix pour Cédric Gerbeau et 4 voix pour Bernard Barbier. Donc Monsieur Gerbeau, Cédric est proclamé maire et est immédiatement installé.
Voilà, félicitations. Voilà 2 mois que Cédric Gerbeau rongeait son frein dans l'ombre du maire sortant et il va devoir très vite prendre des décisions.
4 grosses problématiques, l'école, le côté solidaire, la précarité, les problèmes économiques liés à notre village, tous ces commerçants artisans qui vont avoir besoin d'un vrai coup de main. Et surtout, bon, nous, en tant que municipalité, on veut surtout les soutenir à travers plusieurs réseaux. C'est effectivement là que notre attention va être tournée immédiatement.
Le chef de l'opposition, Bernard Barbet, n'a pas l'intention de faire de cadeaux au nouveau maire, d'autant qu'il conteste toujours la tenue du premier tour des municipales.
Il faut regretter ce premier tour qui est passé en force et qui n'a pas permis aux personnes les plus vulnérables et les plus fragiles de voter, qui a fausser totalement le résultat des élections, à notre grand regret. Voilà, nous serons très vigilants dans le travail, dans l'écoute et surtout s'inscrire dans la durée.
Voilà, on l'entend, la vie démocratique reprend son cours à Saint-Macaire. Rendez-vous au prochain conseil municipal pour les premières joutes entre la majorité et son opposition.
Stéphanie Scoc de France Bleu, Gironde, autre maire élu hier. Gérald Darmanin à Tourcoing dans le Nord. Long entretien du ministre de l'Action et des Comptes Publics dans le journal du dimanche. Il veut visiblement peser. Gérald Darmanin explique qu'il va cumuler les fonctions de maire et de ministre pendant un temps, vu les circonstances sanitaires. Mais il reversera son indemnité de maire à la SPA. Il propose également de simplifier et étendre l'actionnariat salarié. Grande idée gaulliste de la participation. Masque sur le nez, sinon c'est 135 euros d'amende à Belfort. Les autorités ne plaisantent pas dans les marchés couverts. Jusqu'ici, le port du masque était conseillé. Obligatoire depuis hier, c'est affiché à l'entrée des marchés. Commerçants et clients doivent s'y plier. Passons quelques tensions, au reportage Hervé Blanchard.
Trois policiers municipaux filtrent l'entrée unique du marché Fréry, avec depuis ce week-end donc une règle à faire respecter.
Le port du masque est obligatoire.
Non, je ne pas, c'est en question.
C'est n'importe quoi.
C'est vraiment la première personne qui refuse de porter un masque.
Un récalcitrant qui reste un cas isolé, c'est vrai, mais qui a eu le don d'agacer les autres clients qui, eux, portent tous le masque, comme Alain, un habitué du marché Fréry.
Ça me surprend parce que c'est des jeunes, effectivement. Peut-être qu'eux sont moins susceptibles de choper le virus que nous les anciens, mais au moins pour le respect des anciens et pour le respect des gens qui sont à risque, eh ben, de porter ce masque, c'est pas quand même trop contraignant.
Dans les allées du monde, mais pas trop, même s'il y a parfois des files d'attente un peu serrées. Mais les clients, les habitués, sont rassurés par le port du masque, même si c'est parfois un peu gênant.
Ça me fait de la buée sur les lunettes.
C'est pas marrant parce qu'on n'entend rien en plus.
Ben oui, moi je trouve que c'est normal.
C'est pareil, hein, oui, bien sûr.
On est bien protégé, moi je trouve.
Ce qui change surtout, c'est le contact. Il faut parler plus fort donc. Et pour savoir si ce qu'on achète est bon, eh bien on fait confiance, explique Christian le fromager.
Par cette période-là, non, on ne fait pas goûter. Au contraire, c'est tout à notre honneur de faire goûter tous les produits, mais en ce moment, non, on ne peut pas.
Il faut le goûter à la maison après.
S'il n'est pas bon à la maison, c'est un peu tard.
On achète le comté, on aime bien le goûter.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Merci à vous aussi.
Voilà, reportage signé Hervé Blanchard de France Bleu, Belfort, Montbéliard.
À l'étranger, l'Espagne s'ouvre à nouveau aux touristes étrangers.
La volonté claire d'un début de retour à la normalité pour la deuxième destination touristique au monde après la France. Retour des touristes prévu en juillet pour l'Italie, ça sera même le 3 juin. Le championnat de foot espagnol va également reprendre dans la semaine du 8 juin, ce qui n'est pas encore le cas pour l'Italie et puis pour la France d'ailleurs. Son procès aurait dû s'ouvrir mi-mars, repoussé par la pandémie de coronavirus en Israël. Benjamin Netanyahou devant la justice aujourd'hui. Imagine édite qu'il a d'ailleurs longtemps tenté d'éviter. Premier chef de gouvernement israélien en fonction à être inculpé et jugé dans trois affaires différentes pour abus de confiance, fraude, corruption. Un procès qui pourrait durer jusqu'à 3 ans à Jérusalem. Frédéric Mettezo.
Benjamin Netanyahou en a-t-il trop fait avec les grands patrons d'Internet et des médias? Dans le dossier numéro 1000, il est inculpé pour fraude et abus de confiance avec son épouse Sarah, accusée d'avoir touché pour 250 000 euros de cadeaux, champagne, cigares et bijoux de deux hommes d'affaires. Dans le dossier 2000, le procureur le soupçonne d'avoir tenté de limiter la diffusion du quotidien gratuit Israel Hayom pour aider le quotidien payant Yediot Aharonot en échange d'articles favorables. Les accusations sont les mêmes dans le dossier 4000 avec en plus la corruption qui met aux prises le groupe Bezeq, premier fournisseur d'accès à Internet et propriétaire de sites web d'information. Explication de Philippe Koskas, avocat à Tel Aviv.
Il faut voir que c'est une corruption un petit peu originale. Hein. Apparemment, il a aidé à faire une fusion entre deux groupes de presse contre une couverture médiatique favorable. C'est une corruption aussi, mais c'est pas une enveloppe d'argent comme la corruption classique. Il encourt plus de 7 ans de prison. Ce qu'il en fera, je ne sais pas. Mais l'administration pénitentiaire est aguerri au fait d'avoir des grands hommes publics et des grands hommes d'affaires sous les verrous.
L'audience d'aujourd'hui sera purement technique. Les accusés devront dire s'ils ont bien compris l'accusation. Le procès devrait ensuite être renvoyé pour plusieurs semaines. À Jérusalem, Frédéric Mettezo, France Inter.
Benjamin Netanyahou face à ses juges. C'est un article long format à retrouver sur franceinter.fr. À l'étranger, toujours des centaines de manifestants en ce moment dans le centre de Hong Kong et la police qui tire des lacrymogènes. Les manifestants veulent dénoncer le projet de Pékin d'imposer une loi sur la sécurité nationale. Les opposants à cette loi redoutent qu'elle n'annonce la fin des libertés uniques dans l'ex-colonie britannique. Et puis la Corée du Nord envisage de renforcer sa dissuasion nucléaire, selon l'agence de presse officielle du régime, qui rapporte une réunion présidée par Kim Jong-un, première apparition publique du dirigeant rapportée dans les médias nord-coréens depuis près de 3 semaines.
En France, Estelle, bientôt le retour des réunions de copropriété.
Oui, mai, juin, c'est le moment, mais en visioconférence, évidemment. Enfin, jusqu'ici, ce n'était pas possible, parce que pour décider de faire une réunion copro à distance, il fallait le voter en Assemblée Générale, situation quasi ubuesque, résolue il y a quelques jours. L'exécutif autorise, à partir du 1er juin, les syndics à convoquer des assemblées virtuelles. Réunions d'ordinaire souvent agitées, on le constate, alors en visioconférence, ça promet, Marc Bertrand.
Imaginez sur votre écran les visages de dizaines de copropriétaires gonflés à bloc après 2 mois à la maison parce que le syndic n'a assuré que les travaux d'urgence pendant le confinement. Ça va être un cauchemar, dit Valentine, copropriétaire à Villejuif, dans le Val-de-Marne.
Déjà, on s'entend pas quand on parle tous à haute voix. Alors j'imagine qu'avec une liaison à distance, hachée, etc., ce sera encore plus catastrophique, les gens vont encore moins s'écouter.
L'appréhension aussi pour Eric, au conseil syndical du même immeuble.
Je pense qu'on aura des prises de parole intempestives, certains demanderont à couper le micro d'autres.
Et pour ceux qui ne peuvent pas se connecter, le gouvernement prévoit le vote par correspondance, qui va, lui aussi, poser problème, pronostique Émile Agège, de l'Association des responsables de copropriété.
Il est probable que les copropriétaires qui sont opposants par principe vont voter contre à toutes les résolutions par correspondance. Alors que peut-être que si ce copropriétaire, on lui avait forcé de venir en Assemblée Générale, on aurait réussi à le convaincre. Donc méfiez-vous des fausses bonnes idées.
En tout cas, dit Valentine, le distanciel va faire beaucoup jaser en réunion.
Il y aura de nouveau 2 camps. Le camp des pro-visioconférence et le camp des pro-présence physique.
Ce sera, c'est sûr, à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale.
Marc Bertrand, des voisins pas très sympas, une histoire de chat qui rôde, pas question ici d'une réunion de copro, mais de propriété privée. Roman en lice pour le Livre Inter. Son auteur, Julia Deck, a été invité du journal de 13h hier. Propriété privée, satire sociale, comédie cruelle sur la promiscuité pavillonnaire des bobos, avec un idéal écologique également, explique Julia Deck.
Ce qui m'intéressait dans le projet d'Ulysse, c'est le décalage entre les paroles et les comportements. L'histoire de tuer le chat, voilà, c'est au départ, c'est pas du tout des gens dont vous pouvez imaginer qui projetteraient d'empoisonner un chat. Et la voisine qui vote Mélenchon, bah, là aussi, c'est la question du décalage. A priori, elle se comporte pas du tout en conformité avec les discours qu'elle tient. Mais voilà, c'est des petites choses qui sont prises à droite à gauche. Moi, je voudrais pas du tout donner l'impression de me situer en surplomb par rapport à tout ça, parce que c'est des phénomènes qu'on traverse un petit peu tous quand on vit en ville ou en périphérie. Et c'est des comportements avec lesquels on a souvent des difficultés à se positionner. Voilà, on essaye de bien faire et puis en même temps on est pris dans de telles contradictions, une telle complexité entre la nécessité de vouloir vivre de façon plus écologique et puis la nécessité de se déplacer pour aller travailler, que voilà, je ne veux pas donner l'impression de me situer au-dessus, mais c'est vrai que le roman essaye de travailler ces questions-là. Ouais.
Julia Deck au micro d'Eva Bétan, propriété privée, c'est aux éditions de Minuit.
L'actualité, ce sont aussi toutes ces piscines qui commencent à rouvrir sur dérogation et pour l'instant uniquement pour les nageurs de haut niveau.
Ouais, elles sont toujours fermées au grand public, mais après plus de 2 mois hors de l'eau, les pros reprennent l'entraînement. Ça sera dans quelques jours pour 14 nageurs élites du club de Brest qui patientent en nageant dans l'eau de mer. Jérôme va aller assister à une séance.
Allez, let's go.
Au milieu du va-et-vient des planches à voile, les nageurs du club nautique brestois se lancent.
T'es prêt ou pas?
Un peu, ouais. Un peu, combien?
Je sais pas, elle doit être à 14-15 peut-être.
Au programme de la séance du jour, plus de 3 km à nager le long du littoral.
Retrouver l'équipe déjà, c'est super parce que l'esprit de groupe c'est important. Puis ça remotive parce que tout seul pendant 2 mois c'est long.
Comme Inès Pello, ces jeunes nageurs avaient des fourmis dans les jambes malgré les conditions.
C'est différent, on n'a pas les mêmes techniques de nage pour nager en mer qu'en bassin, donc c'est assez difficile. Mais après, on fait avec.
Faire avec en attendant l'ouverture de la piscine prévue dans les prochains jours, mais c'est déjà un grand soulagement, même si les premiers mouvements sont difficiles, raconte Morgan Dornick.
Je sens que je manque de puissance parce que j'ai perdu de la force dans les bras. Le cardio aussi, c'est sûr qu'on a perdu. On n'est pas à notre niveau de quand on avait arrêté en mars.
Et c'est bien le piège, reprendre trop vite après une longue interruption. Depuis quelques jours, les nageurs de Brest multiplient les tests médicaux. Tony Pouliquin est le directeur sportif du club breton.
Là, il y a une vraie coupure. Leur métabolisme a changé. Ils sont plus capables d'encaisser les charges comme avant. Le danger pourrait venir justement de ne pas se rendre compte que c'est dangereux de reprendre très très fort.
Le défi aussi, c'est de retrouver la motivation, reconnaît Steven Dare. C'est l'entraîneur des espoirs de haut niveau.
Là, clairement, on s'est arrêté net et la première échéance qui va arriver, on ne sait pas si ça sera novembre ou décembre.
Donc on est encore très 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 loin. C'est handicapant, je vais jouer sur le collectif clairement, les garder dynamiques, impliquées.
En attendant, c'est bien une eau à 13 degrés qui attend les nageurs pour quelques jours encore. Brest, Jérôme Val, France Inter.
Voilà, reportage très frais signé Jérôme Val.
C'était le journal d'Estelle Schmitt.